you do?
You shoot your eye out, kid.
I am power. I'm a monster. And you are mortal. You know you cannot escape death. But immortality can be obtained. In all traditions, they speak of holy mountains, the Meru mountain of India, Mount Kuenlun of the Taoist, the Karakoram of the Himalaya, the mountain of the philosophers, the Rosicrucian mountain, the Kabbalistic mountain of San Juan de la Cruz. There are many other holy mountains. The legend is always the same. 9 immortal men live on top of the mountain. From the highest peak, they direct our world. They hold the secret to the conquest of death. They are more than 40,000 years old, but they were once like ourselves. If others have succeeded conquering death, why must we accept it? I know where the immortals live and how to obtain their secret.
Willkommen, bienvenue, bonsoir, chers auditeurs et bien sûr, chères auditrices. Vous êtes en train d'écouter Arrête ton cinéma, ATC, comme on dit aux US. Hey Bruce, where are you going over there? Well, I'm going to listen ATC, you know? It's gorgeous. It's amazing. It's motherfucker. Eh ouais, ça se passe comme ça aux États-Unis. Alors bien sûr, si vous savourez ma voix, c'est que vous êtes en train d'écouter RDIWA 107.5 FM et qu'il est inutile à l'heure où je suis en train de vous parler de vous dire que vous pouvez retrouver cette émission sur le podcast éternel du www.rdiwa.fr. Non, il est inutile car vous le savez pertinemment. Voilà. Sauf évidemment les nouveaux. Mais bon, les nouveaux, comme ils sont nouveaux, sont justement excusés. Voilà. Excusez-nous les nouveaux. Alors, on va se lancer, hein, parce que trêve de blabla, sur la thématique de cette émission plus que formidable. Et oui, quand on commence une émission, on prend tout de suite l'accent du Sud, c'est tout de suite plus sympathique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Alejandro Jodorowsky. Voilà, Alejandro, comme dirait Lady Gaga. Eh bien, ce cher Alejandro Jodorowsky, Jodo pour les intimes, alors Jodo, histoire d'eau, comprend qui peut. Alors ce cher Jodo, parce que les intimes peuvent l'appeler ainsi et j'ai l'honneur de faire partie de cela. Or donc Jodo, parce qu'on digresse là tout de même, est né le 17 février 1929. Alors 1929, évidemment, terrible année, hein, pour les amateurs de Mike Brandt, hein, puisque là aussi ce sont des gens qui se sont jetés par la fenêtre suite à une crise économique. Mais heureusement, l'économie s'est redressée et elle nous fait évidemment vivre un superbe espoir. Voilà, ça ne va pas recommencer. Non. Plus de crise des subprimes. Non. Or donc, ce 17 février 1929, Alejandro Jodorowsky naît à Iquique. Alors, où se trouve Iquique, allez-vous me dire? Eh bien, c'est une petite bourgade du Chili, voilà, parce que les Jodorowsky, comme leur nom le peuvent le présumer, ne sont pas originaires du Chili, que nini, que non. Ils sont en fait issus de l'Ukraine, et oui, de l'Ukraine, exactement des Yekaterinoslaves. Alors, actuellement, ça ne s'appelle plus comme ceci, mais alors là, excusez-moi, ça va faire mal aux oreilles, de Dipropetrovsk Petrovsk, voilà, c'est ces fameuses langues qui adorent les consonnes et qui détestent tant les voyelles. Et bien voilà, donc, parce que voilà, les Jodorowsky ont fui les pogroms de l'Empire russe. Et oui, c'était super sympathique à l'époque. Voilà, dès qu'il y avait un petit problème, il fallait qu'on tape sur les Juifs. Voilà. Et donc, ils se sont installés au Chili. Voilà. Alors Alejandro s'est tout de suite intéressé à la lecture. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire à Iquique à l'époque. Et il a dévoré entièrement la bibliothèque municipale. Il s'est intéressé surtout aux récits d'aventure. Et il a découvert aussi notre cher Fiodor Dostoïevski. N'est-ce pas? Et puis, en fait, ben voilà, Jaime, son père, aurait voulu qu'il soit médecin, mais évidemment, il n'en est rien. Alejandro avait créé son petit spectacle de marionnettes, et puis il a parcouru le Chili avec un cirque. Et c'est vrai que le cirque, dans tout l'œuvre de Jodorowsky, eh ben, ma foi, on en parle beaucoup, surtout ce qui est évidemment du cinéma, pardon, plus que du théâtre. Mais voilà, donc, et puis, Raimé propose qu'évidemment, il continue pour devenir médecin, donc, mais Alejandro refuse et part à Paris où il va faire la connaissance du Mime Marceau que nous avons la chance d'avoir avec nous. Alors, Mime Marceau, donc, vous avez connu, évidemment, Alejandro Jodorowsky. Bien sûr. Et c'est là qu'il vous a écrit un spectacle, si je me rappelle bien. Bien sûr, bien sûr. C'était pas le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau, n'est-ce pas? Non, Mime Marceau, non, monsieur, non, Mime Marceau, ayez des gestes à police, s'il vous plaît. Non, je vais vous demander de quitter le studio. Mais oui, mais bien sûr, vous pouvez me faire. Voilà, et ben c'était le Mime Marceau, c'était fort sympathique. Et oui, effectivement, Alejandro propose un spectacle pour le Mime Marceau et même il va organiser aussi pendant quelque temps des spectacles pour Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, effectivement. Et puis, et en fait, il va quitter le monde un peu du spectacle conventionnel et en 1962, avec Roland Topor et son ami espagnol Fernando Arrabal, ils vont créer le groupe Panique. Alors, c'est pas un groupe de musique, que nenni, non, c'est bien du théâtre, mais c'est du théâtre des années 60. Alors, on fait des happenings, on fait des performances dans des lieux qui ne sont justement pas des théâtres, on amène le théâtre aux spectateurs et non l'inverse. Oui, c'était les années 60. C'est extraordinaire. Voilà, évidemment, parce que c'est un pied de nez insolent et rigolard à l'intransigeance du mouvement, évidemment surréaliste, voilà, qui fait la gloire des années 60s. Voilà, alors, c'est vrai que pour nous autres, Diwa, Roland Topor, ça parle tout de suite un petit peu parce qu'il faut savoir que Monsieur Couturo, qui est donc, je dirais pas l'inventeur, mais faut pas non plus exagérer, mais qui avait quand même amené le théâtre, a dit, notamment, je me rappelle à l'époque, au réfectoire, qui se trouvait à l'époque juxtaposé à notre nouvelle mairie et qui a aussi à la création des oiseaux de passage et aussi, évidemment, du nouveau théâtre désert qui n'a pu, hélas, voir l'essor, puisqu'il est décédé. Donc voilà, donc Roland Topor, ça parle aussi pas mal. C'était les chats pour certains. Voilà. Et puis Fernando Arrabal, c'est aussi un sacré personnage qui a fait aussi du cinéma, qui est un poète, qui est un écrivain aussi, qui fait pas mal de théâtre. Et c'est d'ailleurs justement d'après une pièce de, comment ça s'appelle, Fernando Arrabal, que Jodorowsky va faire son premier film, Fando Ellis. Alors, autant vous dire que c'est pas une œuvre très simple, une œuvre très sombre, dirais-je même, de deux personnages qui tentent de s'en sortir, accompagnés d'autres personnages assez truculents, mais c'est une œuvre très 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 sombre. Et d'ailleurs, quand il l'a présenté au festival d'Acapulco, eh bien, ma foi, il a failli être lynché, notre cher Alejandro. Donc c'est vrai que ça s'est quand même assez mal passé, il faut bien le dire. Voilà, mais voilà. voilà, il avait le goût du cinéma, effectivement. Et puis, ça lui a permis de créer sa seconde œuvre, puisque là, il avait continué avec tout ce qui était théâtre, et puis il était parti au Mexique, créer justement du théâtre d'avant-garde. Et puis, ça lui a permis aussi de créer El Topo. Alors, El Topo, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque nous en avions déjà parlé pour les Midnight Movies, puisque effectivement, El Topo est à l'origine des Midnight Movies, le western psychédélique surréaliste d'Alejandro Jodorowsky. Voilà, qui est vraiment une météorite dans le milieu du cinéma, puisque là, on détruit toutes les conventions du western, qui à l'époque, évidemment, était plutôt sur le déclin. Alors voilà, c'est l'histoire d'un homme, El Topo, avec son fils qui est joué justement, puisque El Topo est joué par Alejandro et le fils justement est joué par Brontis Jodorowsky, parce qu'évidemment Monsieur Jodo comme Monsieur Astier ou comme les Coppola, et ben tout se passe en famille, c'est la famille d'abord. Donc voilà, donc El Topo est un guerrier et qui n'a pas peur d'exprimer sa violence et qui va tuer un sorte de petit dictateur de pacotille et sauver une femme. Il va tomber amoureux de cette femme et abandonner son enfant à des moines. Il va partir dans une quête puisque cette dame exige qu'il détruise les grands seigneurs pistoleros de l'Ouest. Et donc, évidemment, El Topo va à chaque fois devoir augmenter son potentiel de combat, n'est-ce pas, pour, ma foi, lutter contre ces seigneurs qui sont évidemment des maîtres, puisque dans toute l'œuvre de Jodorowsky, c'est surtout la quête. Et la quête passe souvent par la mort du père, la mort du maître. Voilà, un peu comme dans pas mal de films aussi. Donc voilà, et au bout de cette quête, évidemment, la femme va l'abandonner pour un ou une rivale, c'est selon comment on voit l'image. Et il va être abandonné, gisant, presque mort, et il va être recueilli par une communauté d'êtres mal formés. Alors là aussi, nombreuses références dans l'œuvre de Jodorowsky à ces êtres mal formés qui font évidemment aussi les heures glorieuses des Midnight Movies, puisqu'on avait parlé de Ted Browning et de Freak et aussi Pink Flamingo. Voilà, ce sont vraiment des êtres à part, difformés. Et en fait, ce sont des gens qui sont issus des relations consanguines d'un village qui n'est pas loin, puisque ces êtres mal formés vivent dans une grotte. Et voilà, et donc El Topo va faire servir de lien entre cette communauté de monstres et la ville. Et il va être tenté de gagner de l'argent pour que justement on puisse faire sortir ces monstres de leur grotte. Malencontreusement, la ville est complètement à la ramasse. Voilà, c'est le culte de l'argent, le culte aussi de l'hypocrisie. Les gens, voilà, les femmes et les hommes sont quelque peu séparés. Les femmes, évidemment, reprochant aux hommes leurs boissons et les jeux, et les hommes, évidemment, ayant peur de leurs femmes, leur dissimulent leurs vices. Voilà, c'est vraiment un bon film à voir. C'est vrai que pour ceux qui l'ont vu dans les premiers temps, ils utilisaient de certaines substances, et j'avoue que oui, effectivement, on peut, parce que c'est vraiment, vraiment un film à part. Beaucoup d'images, beaucoup de symboles, parce que le symbole est très important dans l'œuvre de Jodorowsky. Donc voilà, il y a ça, cette œuvre El Topo. Et puis, Jodorowsky a créé son œuvre El Topo, il a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement mexicain. Parce que le gouvernement mexicain refusait qu'on amalgame cette œuvre à justement le Mexique. Donc il ne voulait pas qu'on critique l'establishment en place et encore moins la religion. Ce que hélas fait un peu le film tout de même. Donc voilà, donc il a eu très peur et il est parti aux États-Unis et ensuite il a fait la montagne sacrée, voilà, qui est aussi issue déjà d'une œuvre aussi existante. Et là, pour l'occasion, en fait, là on parle d'un homme qui ressemble beaucoup à Jésus-Christ, hein, ce qui est aussi le cas d'ailleurs du fils de El Topo, qui ressemble curieusement là aussi à un Messie, pas le joueur, mais bien le fils de Dieu. Et donc ce héros de la montagne sacrée va être recueilli par un alchimiste qui va lui proposer de gagner l'immortalité en évidemment gravissant une montagne sacrée. Voilà, et avec lui il y aura des compagnons, ils seront au nombre de 7, toujours les symboles, qui sont en fait, ces compagnons de voyage sont surtout des gens qui dirigent le pays. Il y a le maître de la police, une marchande d'armes, un marchand de beauté, et ainsi de suite, la culture aussi. Donc voilà, et en fait, l'alchimiste, qui est joué là par Alejandro Jodorowsky, va en fait les prendre à leur propre piège, puisqu'effectivement, tous ces personnages sont un peu blasés de leur existence et en fait ils sont en quête d'immortalité. Donc il va utiliser cette énergie, cette synergie entre eux et pour leur propre nombril évidemment, pour atteindre cette montagne sacrée. Et évidemment ils vont dépasser chacun aussi leur propre peur et leur propre position. Voilà, celle-là aussi. Et puis il faut savoir que justement, donc ça aussi c'est un film assez spectaculaire, voilà, qui est peut-être un peu moins sanglant qu'El Topo, il est vrai. Et puis c'est justement au Mexique que Jodorowsky va toucher la première fois à la bande dessinée, parce que il est vrai que nous avons parlé jusqu'à présent d'un Jodorowsky cinéaste, d'un Jodorowsky théâtre. Mais il y a surtout Jodorowsky bande dessinée. Et c'est justement donc avec Manuel Moreau qu'il va imaginer le personnage d'Hannibal V. En 1975, avec Jodorowsky rencontre Moebius, avec qui il va travailler sur une adaptation cinématographique de Dune, l'œuvre de Frank Herbert, que d'après les spécialistes, c'est impossible d'y faire au cinéma. Qui veut, mais c'est pas possible. Et ben voilà, ils vont se lancer dans le travail, ils vont faire évidemment des dessins, des costumes. Jodorowsky va contacter Pink Floyd et Magma pour faire la musique, et évidemment aussi chercher évidemment des figures pour faire ses personnages, et notamment Salvador Dali pour faire l'empereur Padasham, Shaddam 4. Et là, évidemment, vis-à-vis des studios, bah, ça va, comment, la facture va devenir de plus en plus énorme. Et là, les gens ils vont dire « Ah mais c'est pas possible, quoi. C'est pas... Non, non, mais arrête, quoi. » Et donc là, c'est vrai que ça va s'écrouler. Les studios vont récupérer le projet et l'offrir, évidemment, à David Lynch avec l'obligation de faire un film seulement en 2 heures, mais avec le budget qu'il veut. Ça sera évidemment un peu un film à la ramasse, même s'il est techniquement bien fait. Il est clair que voilà, on ne parle pas de Dune, hein. C'est, voilà, c'est caressé, c'est léché, mais c'est pas l'œuvre de Dune entière. Et de cette rencontre de Jodorowsky et Moebius, évidemment, il va naître d'abord un premier album, Les yeux du chat. Et puis en 80, ils vont se lancer dans les aventures de John DeFool. Hein. Non, c'est pas celui qui était sur Skyrock. Évidemment, c'est l'Incal. Voilà, et c'est là que Jodorowsky va faire vraiment une rentrée fracassante dans le milieu de la bande dessinée et changer pas mal de choses, puisqu'il est quand même assez prolifique, notre cher Jodorowsky. Il va rencontrer avec le dessinateur Arnaud, il va faire Elf Tow. Alors là, c'est l'histoire d'un garçon qui naît sans bras et sans jambes et qui, au fur et à mesure de ses aventures, va évidemment gagner des membres, mais aussi est toujours un niveau de spirituel de plus en plus haut. Et aussi avec Georges Bess, il va faire le Lama Blanc, qui est évidemment un remake de Hannibal V. Là, l'histoire évidemment d'un grand sage lama qui décède et se réincarne dans un petit garçon blanc qui évidemment va devoir lutter contre l'establishment pour évidemment dire qu'effectivement il est la réincarnation, que évidemment personne ne le croit, hein, forcément. Et puis, il y a évidemment Juan Solo. Juan Solo, sans doute hommage au héros de George Lucas, qui va évidemment l'imposer dans le milieu de la bande dessinée, parce qu'on trouvait qu'il était un petit peu ouh, il passait partout. Et voilà, au Festival d'Angoulême, il va évidemment recevoir les félicitations de ses pairs. Donc, Juan Solo, qui est donc un homme. Dont la mère est une prostituée et qui a une queue de chien à la, évidemment au bas de sa colonne vertébrale. Et puis avec Zoran Janjentov, il va faire donc l'avant Incal, donc John Difool avant l'Incal, avec Book et ses faces de lune, avec Silvio Cadeldo, c'est la saga d'Alandor, et évidemment le sans doute. Pour moi, l'une des œuvres majeures au niveau de la bande dessinée d'Alejandro Jodorowsky, c'est évidemment avec Juan Jiménez, la caste des Métabarons, qui était en fait un personnage de l'Incal. Et là, pour l'occasion, c'est vraiment, vraiment l'univers de Jodorowsky, c'est-à-dire que là, c'est des super guerriers. Là, on se retrouve un petit peu comme El Topo, donc avec des personnages qui n'hésitent pas à être très violents, mais qui obéissent à un code qui les dépasse. Là aussi, on peut même toucher au fatum grec, c'est-à-dire qu'effectivement, à un certain âge, le personnage est confronté à son père ou sa mère, qu'il doit tuer. Pour évoluer et évidemment aussi subir moi on peut appeler ça une torture, je dirais même une ablation de sa personne, soit les jambes, soit la tête, soit même le sexe pour l'un des personnages. Donc voilà, et évidemment tout est raconté en flashback, puisque c'est deux petits robots qui se racontent l'histoire, avec en fond de mire le dernier des métabarons qui n'a même pas de nom, puisqu'il s'appelle Sans Nom. Voilà, avec Jean-Claude Gall, il va faire la passion de Dio Samante. Et puis aussi, dernièrement, dans les années 2000, début 2000, en fait, il va avec aussi un autre dessinateur très connu, qui n'est autre que Manara, faire la série Borgia. Hein, voilà, en bande dessinée, on l'avait évidemment sur Canal+. Et voilà, et ben lui, il le fait en bande dessinée, c'est assez chaud. Puis Manara, c'est vrai, c'est le déclic. Voilà, donc c'est une véritable œuvre. C'est vrai qu'on a aussi. Parler de Jodorowsky qui se lançait dans beaucoup de projets au niveau de la bande dessinée, ce qu'il est aussi dans Megalex et puis les Technopères hein, avec son ami Jean Genoft, Jean Gentoff. Et puis voilà, c'est vrai que les Technopères et Megalex, c'est souvent hélas des bandes dessinées qui se terminent un petit peu à la va-vite, ce qui est un peu dommage. Voilà, mais c'est un peu aussi les travers de notre cher Alejandro Jodorowsky. Donc on va faire une petite pause, puisque là on a parlé des œuvres, hein, du moins cinématographiques, du début de El Topo et de la Montagne Sacrée. On a parlé aussi de l'œuvre théâtrale, et puis hein, un petit peu, on en parlera un peu plus. Après, et puis aussi de l'œuvre, surtout de la bande dessinée. Donc là, je vais laisser, puisque effectivement, la famille Jodorowsky est quand même assez grande. Alejandro Jodorowsky a plusieurs enfants. Voilà, Brontis, Axel et Aidan. Et justement, on va parler de ce cher Aidan qui se fait nommer Adanowski et qui est devenu un chanteur. Donc, on va passer un petit morceau de Adanowski. Voilà, qui adore, paraît-il, beaucoup, beaucoup les jeunes.
Oh, rêve de jeu. Non, non, non. Pure, pure. Ah non, ah non, plus bas. Ah voilà, c'est ça. Maintenant, ne bouge pas. Ne bouge pas. Hein. Reste comme ça. D'accord?
J'en ai connu des jolies filles, 10 fois plus belles que toi. J'en ai connu avec des corps parfaits qui ne m'ont jamais fait l'effet que tu me fais, me fais, me fais, me fais.
maison. Et j'en ai même collé sur notre joli plancher. Un hein, pour être sur les genoux. Oh j'aime, j'aime, j'aime.
Premier temps par Henry Salvador, un remake évidemment de Shame on You. Voilà, put the shame on you, shame, shame, shame on you. Voilà, alors on va continuer avec Jodorowsky.
Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze, il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop, pop, pop.
Alejandro Jodorowsky va faire un film Tusk en 1978 qui reprend en fait l'histoire d'une petite fille et d'un éléphant qui là aussi va être un échec. Donc effectivement pendant toutes ces années 80, eh bien ma foi, il va arrêter un peu le cinéma, se lancer, comme je l'ai dit avant, notamment sur la bande dessinée, mais pas que ça, parce que c'est vrai qu'il anime dans divers lieux de Paris, comme une université ou un bar ou même un dojo, des réunions ouvertes hebdomadaires intitulées le cabaret mystique, où il va parler de la pratique du zen avec qui il a étudié avec Ejo Takata, parler des arts martiaux, de la tradition chilienne, aussi de l'héritage spirituel de l'humanité, du massage, la sagesse aussi des blagues, entre guillemets, et la psychanalyse, évidemment, dans les années 80 aussi, de Carlos Castaneda, hein, c'est l'utilisation de certains produits pour, évidemment, des sorties de hors du corps, de, voilà, d'accomplissement de soi. Et c'est vrai que là, il va se lancer dans pas mal dans ce qui est évidemment les tarots de Marseille et qui sont apparus évidemment au 16e siècle. Elle compte 78 cartes qu'on appelle l'âme ou arcane qui sont scindées en deux groupes. Donc 22 sont des arcanes majeures, 56 évidemment des arcanes mineurs. Alors on peut en citer quelques-uns comme le mât, le battleur, la papesse, l'amoureux et même l'arcane sans nom, le 13e qui représente la mort, mais qui n'est pas que la mort, mais c'est aussi la transformation, puisqu'évidemment, selon qu'on les tourne dans un sens ou dans l'autre, elles n'ont pas évidemment la même signification. Alors en fait, elles sont issues d'un jeu milanais apparemment, et elles sont apparues à Lyon au XVIe siècle, et en fait elles étaient fabriquées à Marseille, et c'est pour ça depuis 1630, c'est pour ça qu'on l'appelle le tarot de Marseille. Il y a aussi une autre version appelée le tarot de Besançon, qui est une variante née à Strasbourg au XVIIe siècle, et on a remplacé le pape et la papesse par Junon et Jupiter, évidemment pour des histoires religieuses. Et là, effectivement, comme pour Marseille, évidemment, la fabrication se faisait à Besançon. Donc, Jodorowsky va retravailler pour retrouver les couleurs originaux, les dessins originaux dus à un certain monsieur Nicolas de son état, que Nicolas Convert, voilà, célèbre quartier, celui qui fabrique des cartes, hein. C'est pas le quartier comme Jacques Cartier, le quartier pauvre aussi, ou le quartier latin, non, là c'est évidemment le quartier Nicolas Convert, voilà, toute une histoire, parce que, rappelons-le, le symbole est très important dans l'œuvre d'Alexandro Jodorowsky. Alors, ensuite, après ces histoires de tarot de Marseille, Alejandro Jodorowsky va de nouveau se lancer dans le cinéma avec Santa Sangre. Alors, Santa Sangre est véritablement un monument dans l'œuvre d'Alejandro Jodorowsky. C'est un film assez à part, mais qui intègre parfaitement l'univers de ce réalisateur, lui-même à part, puisqu'en fait, c'est l'histoire donc d'un héros qui s'appelle Phénix, avec un F, donc pas PH, mais bien F, donc Phénix, et qui travaille dans un cirque. Tiens, comment on se rappelle du cirque, voilà, avec un père qui lance des couteaux et une mère qui, elle, fait pas mal, ça s'appelle acrobate, et une funambule. Et puis, en fait, elle dirige une secte qui s'appelle Santa Sangre, évidemment le sang sacré, puisqu'en fait ils se rendent dans un lieu où il y a une immense piscine remplie de sang. Le père de Phénix, lui, est un homme tatoué, et évidemment il va tomber amoureux d'une mystérieuse femme tatouée. Là, c'est là que l'histoire va très mal se passer, puisqu'effectivement la femme découvre qu'elle est trompée et va jeter de l'acide aux yeux de sa rivale. Énervé, le père, avec ses couteaux, coupe les bras de sa femme, et la femme tatouée s'en va avec l'ami de Phénix, qui est une jeune fille sourde et muette, et le père se suicide devant les yeux de son fils, qui évidemment a assisté à toute la scène. Autant vous dire que le Phénix, eh ben, il est chaud patate, et évidemment il va être interné en asile, et il va devenir les bras de remplacement de sa mère, voilà, évidemment, puisque sa mère n'a plus de bras, donc c'est lui qui va passer derrière elle et se mettre des ongles. Voilà, toujours une histoire de symbole, relation très forte entre la mère et le fils, qui n'est pas sans rappeler évidemment l'œuvre de Hitchcock, Psychose, voilà, parce que là aussi la mère va pousser son fils à commettre des actes de violence, notamment quand elle retrouve évidemment sa rivale qui est devenue une prostituée, forcément. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre très très sublime, de très belles images, notamment le passage où l'éléphant du cirque meurt, on jette son cadavre dans une fosse, et là des centaines d'enfants qui sont atteints du syndrome de Down, donc ils ont des problèmes chromosomiques, vont se jeter sur ce cadavre pour le manger. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre très très à part. Évidemment, le fils va retrouver évidemment son ami sourde et muette, et là la mère, ayant peur que son fils le quitte. Évidemment, on va forcer ce dernier à la tuer. Voilà, je ne vous raconterai pas la fin, mais c'est véritablement pas sans rappeler Psychose. Donc, si vous avez, vous savez ce que c'est que Psychose, le film avec Anthony Perkins. Tweet, tweet, tweet. Donc voilà, c'était une œuvre très très forte. Par contre, il est vrai que comme c'est une œuvre à part, il est très difficile de la voir. Moi, je suis hélas un fervent admirateur de l'œuvre de Jodorowsky et je n'ai pas pu le voir encore. Donc, c'est vrai que c'est très très dommage. Là, ça va être l'un des derniers films d'Alejandro Jodorowsky, puisque effectivement, pour l'occasion, c'est vrai que ça reste dans l'œuvre du cinéma une œuvre très peu vue. Voilà, mais qui reste, il est vrai, pour les aficionados, une œuvre essentielle d'Alejandro Jodorowsky. Mais Jodorowsky ne s'arrête pas là. Il a fait du cinéma, il a fait du théâtre, il va aussi évidemment tenter de refaire El Topo, la suite avec le fils d'El Topo, mais malencontreusement, là aussi, il va avoir des gros problèmes avec des histoires juridiques, celui qui produit le film. Donc ça se passe évidemment assez mal, puisqu'il faut savoir que déjà, El Topo avait été racheté par John Lennon pour le diffuser au grand public, et ça avait été un véritable échec. Devant cette bévue, quelque part, John Lennon va financer évidemment La Montagne Sacrée. Donc, c'est vrai que, hélas, l'œuvre de Jodorowsky est enclin à beaucoup de problèmes. Donc, effectivement, c'est avec son producteur Alan Kane, le fils d'El Topo va s'écrouler. On voulait même à un moment, à l'époque, l'appeler Abel et qu'un, malencontreusement, ça va vraiment, vraiment mal se passer. Donc, pendant ce temps, et ben ma foi, Jodorowsky se met à l'écriture. Et d'ailleurs, je vais vous citer un passage du livre d'Alejandro Jodorowsky, L'Arbre du Dieu Pendu, pour vous dire à quoi ça ressemble un livre d'Alejandro Jodorowsky. En 1903, Teresa, ma grand-mère, la mère de mon père, se fâcha contre Dieu et contre tous les Juifs de Dniepropetrovsk en Ukraine. Parce qu'en dépit de la crue meurtrière du Dniepr, il continuait à croire en lui. Joseph, son fils adoré, périt dans l'inondation. Lorsque l'eau commença d'envahir la maison, le jeune garçon poussa un bahut dans la cour pour grimper dessus. Mais le meuble, où s'entassaient les 37 volumes du Talmud, refusa de flotter. Après l'enterrement, poursuivi par son mari et portant dans ses bras ses 4 enfants survivants, 4 marmots, Raimé, donc le père d'Alejandro, et Benjamin, Lola et Fanny, fruits du devoir plus que de la passion, elle fit interruption telle une bête féroce dans la synagogue et interrompit la lecture du chapitre 19 du Lévitique. Parle à la communauté de tous les fils d'Israël et dis-leur en rugissant. C'est moi qui vais vous dire. Elle traversa l'espace interdit aux femmes, bousculant les hommes qui, saisis d'une terreur infantile, dissimulaient leurs visages barbus sous les châles de soie blanche, jeta sa perruque par terre et découvrant un crâne lisse rougi par la colère et collant son visage endurci contre les caractères hébreux du parchemin de la Torah, et se mit à lancer des imprécations. « Tes livres ne sont que mensonges. Ils disent que tu as sauvé le peuple tout entier, que tu as ouvert la mer Rouge en deux aussi facilement que j'épluche mes carottes. Et pourtant, tu n'as rien fait pour mon pauvre Joseph. Si cet enfant était innocent, quelle leçon as-tu voulu me donner ? Que ton pouvoir est sans limite, je le savais déjà. Que ton mystère est insondable et que je dois accepter ce crime avec résignation, comme une épreuve pour ma foi, jamais. Ça, c'est valable pour les prophètes de la dimension d'Abraham, capables de brandir le couteau sous la gorge de leurs enfants, mais pas pour une pauvre femme comme moi. De quel droit exiges-tu autant de moi ? J'ai respecté tes 613 commandements, j'ai pensé à toi sans relâche. Je n'ai jamais fait de mal à personne, ma maison est un lieu saint pour ma famille. J'ai préparé le repas et j'ai fait le ménage en priant. Je me suis laissé raser le crâne en ton nom. Je t'ai aimé plus que mes propres parents. Et toi, ingrat, qu'as-tu fait? Face à ton pouvoir de mort, mon fils n'a été qu'un ver de terre, une fourmi, une chure de mouche. Tu es sans pitié, tu es un monstre, tu as créé un peuple élu rien que pour le tourmenter. Tu ris à nos dépens depuis des siècles, ça suffit. C'est une mère qui a perdu l'espoir qui parle, et c'est pour ça qu'elle n'a pas peur de toi. Je te maudis, je t'efface, je te condamne à l'ennui. Continue dans ton éternité à faire et à défaire des univers. Parle et gronde, moi, je ne t'écoute plus. Ma décision est sans appel. Disparais à jamais de ma maison. Tu ne mérites que mon mépris. Tu vas me punir? Que la lèpre me recouvre, que je sois coupé en morceaux, que les chiens se nourrissent de ma chair, cela m'est égal. La mort de Joseph m'a déjà tué. Nul ne dit mot. Joseph n'avait pas été la seule victime. Plusieurs venaient d'enterrer parents et amis. Mon grand-père Alejandro, dont j'ai hérité une partie du nom, l'autre moitié me venant du père de ma mère, qui s'appelait aussi Alejandro. Mon grand-père, avec un soin infini, sécha les larmes qui brillaient comme des scarabées transparents sur les caractères hébreux et s'inclina à plusieurs reprises en direction de l'assemblée. Le visage pourpre, il marmonnait des excuses que personne n'entendit et amena Teresa en tentant de l'aider à porter les quatre enfants. Mais elle ne voulut pas les lâcher. Elle les serrait si fort contre ses seins robustes qu'ils se mirent à hurler. Une bourrasque se leva. Les fenêtres s'ouvrirent et un nuage noir envahit le temple. C'était toutes les mouches de la région qui fuyaient une averse soudaine. Pour Alejandro Lévy, à l'époque, notre famille s'appelait Lévy. La rupture de sa femme avec la tradition ne fut qu'un coup dur de plus. Les coups durs étaient indissociables de son être. Il les avait stoïquement supportés toute sa vie. Ils formaient comme un bras ou un organe supplémentaire, une part normale de la réalité. Il n'avait pas 3 ans lorsque Peroshka, la servante hongroise devenue folle, avait fait interruption dans la chambre et assassiné à coups de hache Léa, sa mère, dans les bras de laquelle il dormait. Son petit corps nu fut rougi par les flots tièdes. 5 ans plus tard, une flambée de haine déclenchée par la croyance que les rabbins fabriquaient leur pain azim avec le sang des enfants chrétiens déversa dans les rues d'Ekaterinoslav un essaim de cosaques ivres qui incendièrent la bourgade, violèrent des femmes et des enfants, et parce qu'il avait refusé de cracher sur le livre, rouèrent Raimé son père à coups de bâton jusqu'à le réduire en charpie violette. Alejandro fut recueilli par la communauté juive de Zlatopol. Une entité abstraite, au visage anonyme. On lui donna un lit dans l'école rabbique. On lui apprit 2 choses, traire les vaches à l'aube et prier le reste du jour. Ces litres de lait matinal furent la seule odeur maternelle de son enfance. Et en guise de caresse féminine, il apprit aux ruminants à lécher son corps nu avec leur grande langue chaude. Voilà. Voilà. L'œuvre d'Alejandro Jodorowsky, L'arbre du dieu pendu. Et c'est vrai que toute cette histoire familiale, symbole, cirque, on le retrouve aussi dans sa dernière œuvre cinématographique, évidemment, j'entends bien, La Danza de la Realidad, qui est sortie l'année dernière, hein, voilà, avec Brontis, son fils, qui... rappelez-vous, était le petit garçon dans El Topo et qui devient son père, Raimé, dans ce film. Voilà l'histoire autobiographique d'Alejandro, voilà, avec un père qui va lutter contre le dictateur en place et qui ne va pas pouvoir le tuer, et qui va travailler à son service. Une mère, plantureuse et qui ne sait s'exprimer que avec des chants d'opéra. Donc voilà, c'est vrai que toute cette histoire de cette petite ville de Tocopilla, avec évidemment là aussi les êtres déformés, c'est vrai que c'est vraiment un film aussi là aussi à part, mais qui a tendance à être peut-être un peu plus facile que les autres, peut-être le film de la maturité, qui sait. Mais c'est vrai que voilà, c'est la dernière œuvre filmographique d'Alejandro Jodorowsky. Voilà, c'est vrai que là aussi, il a continué aussi au niveau du théâtre. Et puisqu'en 2001, Jodorowsky va faire un opéra, revenir à l'opéra Panique. Et puis en 2008, il écrit L'école des ventriloques pour la compagnie Point Zéro, donc qui est créée à Bruxelles. Et évidemment, avec une mise en scène de Jean-Michel Doup. Et en 2009, pour son fils Brontis, toujours Brontis, il va écrire un monologue, Le Gorille, inspiré de la communication à une académie de Franz Kafka. Voilà, Franz Kafka qui faisait partie évidemment des œuvres maîtresses de l'enfance d'Alejandro Jodorowsky. Voilà. Donc, théâtre, livre, cinéma, bande dessinée. Autant vous dire, une vie bien remplie. Hein? Voilà, de El Topo, d'Hannibal V, du Tarot de Marseille, du Chili, d'Inkeke, Ikeke, jusqu'à Paris. C'est vrai que quand on voit, parce que c'est vrai que Jodorowsky n'a fait que 7 films, mais bon. J'avoue que Terrence Malick n'en a pas fait non plus des centaines. Hein. Mais voilà, des années 60, 70, 80, de tout ce qu'il a créé, Alejandro Jodorowsky a toujours tiré quelque chose de symbolique, de familial, parce qu'il y a toujours une histoire de famille. Il y a aussi toujours une histoire de dépassement de soi, d'être un petit peu à part. Ça, on le voit dans La Incale, on le voit aussi dans La Caste des Métabarons. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette histoire de héros solitaire face à la communauté et qui va devoir se dépasser. Évidemment, le dépassement ne se fait pas sans douleur. Il y a toujours la perte de quelque chose, la perte d'une vie relative, la perte aussi dans ce qui est aussi dans la caste des métabarons, la perte des parents, puisqu'évidemment pour grandir il faut tuer le père, comme dirait Monsieur Freud. Voilà. Donc j'espère que j'ai su titiller un petit peu votre attention sur toute l'œuvre de Jodorowsky. C'est vrai que là aussi c'était un peu le mouvement panique. Parce qu'il est vrai que Alejandro Jodorowsky n'est pas ce qu'on appelle un réalisateur majeur, mais il a le mérite d'exister, comme j'aime à le dire. Voilà, c'est vrai qu'El Topo ou La Montagne Sacrée, que ce soit aussi Santa Sangre ou La Danza de la Realidad. C'est vrai que, voilà, hein, par rapport à un David Lynch, un Terrence Malick ou un David Fincher, c'est vrai qu'on est dans un monde un peu à part. Mais il faut, moi, ce que j'aime bien aussi dans Alejandro Jodorowsky, c'est qu'il ne s'est pas cantonné qu'à une seule chose. Il s'est lancé dans la bande dessinée avec un très grand succès. Il s'est lancé aussi dans le théâtre, puisqu'il a été au début aussi avec ce mouvement Panique. Donc voilà, donc c'était aussi ma petite contribution à l'œuvre d'Alejandro Jodorowsky. On va se terminer, si vous me permettez, avec une autre chanson de son fils, dans une plus personnelle, qui se nomme « Estoy mal ». Voilà, et puis ensuite on se lancera donc sur le pestel. Voilà, estoy mal.
Un dolor insoportable me está comiendo el alma. Que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele, los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Por alguna razón, por la calle gritaría: soy un huevo. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal.
Danowski, voilà. Eh bien, chers auditeurs d'Arrêt de Cinéma sur RDO 107.5 FM, nous allons désormais parler du Pestel, où il va se passer 4 films, voilà, où il va y avoir 4 films. Le carnaval, évidemment, de la petite taupe, ah, l'éternelle petite taupe, voilà, qui ne cesse de revenir, hein, dessin animé de la République tchèque, de 2014, voilà, un film d'animation de Zdeněk Miller, donc évidemment toujours notre joyeuse petite taupe qui revient dans des épisodes inédits évidemment au cinéma, voilà, et sa curiosité, sa malice l'entraîne une nouvelle fois dans les aventures burlesques attendrissantes, voilà, un cinéma pour les plus jeunes, les très jeunes à partir de 4 ans. Voilà. Alors là, on va attaquer le blockbuster, mais pour une fois pas américain, mais bien français. Samba, évidemment, d'Olivier Nakache et d'Eric Toledano. Voilà, on avait connu Intouchable, et bien maintenant on connaît Samba, toujours avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim, ainsi que la fille de Jacques Higelin, Isia. Alors, Samba. Hein, qui est donc un plongeur dans un resto et surtout un Sénégalais en situation irrégulière depuis une dizaine d'années, se retrouve dans un centre de rétention. Voilà, et il fait la connaissance d'Alice, qui n'est autre que Charlotte Gainsbourg, qui est un cadre supérieur épuisé par son boulot et qui tente de sortir de sa dépression en faisant du bénévolat dans une association d'aide aux étrangers. Là, ça va être la rencontre, évidemment, de ces deux personnages et l'ami Isia Higelin qui va dire que voilà, il faut un moment se blinder. Eh bien non, Alice ne va pas se blinder et il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un truc conventionnel. Voilà, on va attendre l'humour de Marcy, évidemment, histoire d'amour, évidemment, avec des complications qu'on sait, le racisme, évidemment, la situation irrégulière, donc voilà. Mais je pense que, bon, voilà, la présence de Tahar Rahim, la présence aussi humoristique de Marcy, celle aussi de Charlotte Gainsbourg, sortait pour une fois des œuvres un petit peu, comment ça s'appelle, de Nymphomaniac et consorts et d'Antéchrist, de Lars von Trier, va permettre aussi un film un peu plus léger. Et je pense que c'est vrai que on arrive vers la fin de l'année, on a en tous évidemment le Hobbit, mais c'est vrai qu'aussi on a tendance à vouloir aussi un peu plus du léger. Ensuite, il y a le film Le sel de la terre de Wim Wenders et de Juliano Salgado, évidemment, sur le photographe Sebastião Salgado, évidemment, l'œuvre de Sebastião Salgado, voilà, hein, des très grands photographes du siècle dernier. Et voilà, et c'est vrai que depuis 40 ans, le photographe Salgado parcourt les continents sur les traces d'une humanité en pleine mutation. Il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente, des conflits évidemment internationaux, de la famine, de l'exode. Et pour certains, ces images en noir et blanc, parce que Salgado adorait le noir et blanc, sont évidemment devenues légendaires. Puisqu'on avait connu Wim Wenders avec évidemment son film Pina, sur l'œuvre de Pina Bausch. Et ben voilà, là, Le sel de la terre, c'est sur Salgado. Je pense que c'est là aussi, ça va être un grand film. Il est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce que Pina, on a des chorégraphies. Là, c'est vrai que la photographie, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'évidemment, la photographie, c'est le cinéma immobile. Voilà. Donc, mais je pense que quand même, connaissant Wim Wenders, je pense qu'on peut s'attendre à un très grand film. Et pour finir ce palmarès du 24 octobre au 4 novembre du PESTEL, eh ben, c'est le film récompensé par la Palme d'Or de Cannes, Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, évidemment le film turc, voilà, sur l'histoire d'un ancien comédien qui se retire dans sa région de Cappadoce pour diriger un hôtel hérité de ses parents et en même temps écrire une histoire du théâtre turc. Voilà, il va se passer plein de choses. C'est aussi un film très très long puisqu'il dure tout de même 3h16. Voilà, finalement, est-ce ça là la recette des palmes, puisque La vie d'Adèle aussi était très long. Voilà, donc il suffit de faire un film long. Voilà. Bon, pas que, il est vrai, sinon le Hobbit aussi aurait eu sa palme. Mais voilà, donc on se retrouve avec 4 films pour les enfants. Donc le Carnaval de la Petite Taupe, un film un peu plus léger et comique en ce fin d'année, bientôt. Et oui, on commence déjà à voir la fin de l'année et avec le Sapiens et ses boules. Voilà, donc Samba est un œuvre, je dirais pas un biopic, pas une œuvre autobiographique, mais voilà, l'histoire d'un homme qui a su retenir les images du siècle, Salgado, Le sel de la terre, et voilà, une rediff, comme on peut dire. Il n'y a pas que Arrêtons Cinéma qui peut faire des rediffs, il y a aussi le PESTEL, puisque là, durant 2 semaines, on va avoir droit à Winter Sleep. Voilà, le récompensé par la Palme d'Or de Cannes, n'est-ce pas? Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, je vais vous quitter, évidemment de la voix mais pas du cœur. Et puis je vais vous dire à la semaine prochaine, voilà, avec un mystère pour savoir de quoi qu'on va parler la semaine prochaine. Peut-être des martiens, sait-on jamais. À la semaine prochaine et surtout continuez à écouter RDIWA 107.5 et retrouvez les émissions sur le www.rdiwa.fr, émission thématique lettre A puisque c'est le A de Arrête ton cinéma. Allez, ciao ciao.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.